Life is full of what-ifs. Some awesome, like what if AI could fold your laundry? And some, well, less awesome, like what if you have unexpected medical costs? UnitedHealthcare can help get you covered with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. They supplement your primary plan to help you manage out-of-pocket costs. No deductibles, no enrollment periods, and especially no more what-ifs. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
Ok, on est prêt, tout le monde est en forme.
Ouais, ouais.
Oui.
Bonsoir, bonjour, bon après-midi, bon matin, bonne promenade.
Joyeux Noël.
Et joyeux anniversaire.
Bonne fête.
Vous êtes dans Laisse-moi kiffer, le podcast du kiff et...
de la digression de mademoiselle.com.
Oui, oui, c'est nous. Je suis en compagnie de Kalindi, Mimi et Cédric. Est-ce que vous êtes en pleine forme comme d'habitude?
Ouais.
Absolument.
On est très
mieux
en
que la dernière fois.
Écoute, vraiment très en forme, hein, vraiment, là c'est fou.
En fait, ah si bah, tu le dis oui. trop, on comprend que c'est pas vrai.
Je suis vraiment, vraiment très, très, très en forme. S'il vous plaît, libérez ma famille maintenant.
Il me saoule déjà.
Alors, pour vous donner un peu de visuel, Kalindi en ce moment a un pantalon taille haute déboutonné, ainsi qu'un t-shirt taché sur lequel elle a renversé de l'eau, certainement.
Oui, c'est voilà, j'ai mis taché d'eau, mis bavé, c'est voilà, c'est un style, écoute. Je trouvais que c'était un peu trop simple, ce white t-shirt. J'ai dit, bon, écoutez, agrémentons l'eau d'un peu d'humidité, voilà.
Ouais, c'est bien.
C'était intéressant ce que je viens de raconter. Hein,
heureusement que tu as fait de street style.
Sinon, je voulais vous dire que depuis qu'on a dit Hello Iceland,
notre... je pense que tu voulais couper.
Hi Iceland.
Notre auditeur nous a envoyé un message et il a dit non, en effet, je ne suis pas islandais, mais ça va faire plaisir à Mimi, je suis breton.
Et oui,
tu vois, il aurait pu dire je suis français. Mais non.
Mais non, il est breton.
Mais oui.
Écoutez, moi j'adore les Bretons et ce week-end j'ai fait un barbecue avec un type, je le dis, il s'appelle Titouan. Et, et je le déteste. Voilà, j'avais besoin de le dire parce que vraiment ça m'a pourri mon week-end. Donc voilà, Titouan, je te déteste.
Le fait qu'il s'appelle Titouan ou le barbecue breton?
Non, j'ai détesté Titouan et en fait il est breton, ça m'a fait descendre les Bretons dans mon estime en 5 secondes.
Mais moi je suis
alors
à moitié breton.
Non mais toi je t'aime et j'aime tous les autres Bretons, mais Titouan il faut qu'il parte de la Bretagne pour arrêter de leur faire honte quoi, voilà.
Okay.
C'était mon coup de gueule.
Bienvenue dans le podcast du kiff donc.
Je vais quand même demander parce que sinon ça va me déconcentrer pendant tout le podcast. Cédric, pourquoi tu bois de l'eau chaude?
C'est pas de l'eau chaude, c'est de l'eau chaude avec du sirop de citron.
Ok.
Car j'ai mal à la gorge, car il fait un temps de merde qui pue du cul et donc ça donne mal à la gorge. Alors voilà.
Ok.
Ça me stresse.
Non, mais ça m'apprendra à poser des questions.
En réalité, boire de l'eau bouillie, c'est hyper bon. Et moi, quand j'étais petite et que j'allais à Maurice chez ma grand-mère, elle m'obligeait à boire de l'eau bouillie et chaude. Parce qu'en fait, c'est censé te donner une impression après coup de rafraîchissement. Alors que si tu bois de l'eau fraîche, tu vas rester dans ta condition de personne qui est en train de crever de chaud à l'intérieur. Et en plus, c'est plus sain.
Et d'ailleurs, je bois de l'eau bouillante parce que, effectivement, j'ai vu Kalindi faire ça à plusieurs reprises et je me suis dit, tiens.
Putain, mais je suis tellement son modèle.
C'est clair, ouais. Kalindi.
Je suis tellement ta muse.
Kalala.
Kalala?
Ouais, il m'appelle Kalala depuis 3 jours, j'arrête pas de lui demander d'arrêter, mais bon.
Non, on adore Kalala.
Et on a aussi des auditeurs en Australie, en Argentine. Autant vous dire qu'on est à l'international.
Mais en fait, c'est aussi des Bretons. C'est dans d'autres pays.
Probablement des Bretons. Tous les Bretons expatriés nous envoient des messages pour nous dire qu'ils nous écoutent à l'international.
Hi, Argentina.
Oh, voilà. Oh
là 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 là.
Pourquoi t'as une voix de valet girl? Hi, Argentina.
C'était celle qu'avait fait notre amie Kalindi au
oui,
dernier
mais moi,
podcast,
je parle anglais correctement, quoi.
Hi,
le podcast du kiff. Le podcast de l'amitié.
Est-ce que vous voulez qu'on commence cette émission avec les mini-kiffs?
Ah ben bah oui, écoutez.
Allons-y. Hein, écoutez, Kalindi est si enjouée.
Non, mais vas-y Cédric, toi. Parce que tu portes une belle chemise et tout, c'est à toi de commencer.
Mon mini-kiff, c'est de la bouffe. Mimi me regarde.
Non, ça va, on s'est mis d'accord Cédric.
Tu ne t'es pas mis d'accord, tu m'as menacé violemment sur notre outil de communication interne.
Je t'ai juste dit ouais,
tu
je comprends pas ça.
Tu as écrit en caps lock, tu sais que c'est un signe de folie sur Twitter.
Mais elle fait tout le temps ça, elle abuse grave de son statut hiérarchique.
Est-ce que je t'intimide Kalindi?
Mais j'ai tout le temps peur, c'est pour ça que parfois je te fais de la lèche. T'as vu tout à l'heure, je t'ai écrit ma boss, mon idole, ma muse, je sais pas quoi.
Pour aucune raison. Okay,
et donc, en fait, c'est un fromage de brebis que j'ai découvert il y a très peu. Et donc, c'est un fromage de brebis très rigolo parce que c'est un fromage de brebis qui ressemble à du roquefort et qui est vieilli dans de la cire alimentaire.
Ah, stylé.
Et ça s'appelle donc le César Regalis. Et en fait, il faut savoir que moi, j'ai découvert le fromage fort il y a très peu de temps. J'ai été très fan d'Emmental jusqu'à mes 28 ans.
T'étais le gars qui détestait le fromage?
Non, j'aimais bien le fromage, mais pas le fromage fort. Genre, j'aimais bien la mozzarella, l'Emmental, tu vois.
J'ai pas le goût, quoi.
Le comté. Après, j'étais là genre, c'est trop fort. Et donc, depuis quelques temps, la douce et tendre personne qui partage ma vie et les nuits de mon enfant... donc essaye de me pousser un peu plus vers donc les vrais fromages, hein, ce qu'appelleront les aficionados les vrais fromages, ceux qui ont du goût, ceux qui sentent bien les yep, ceux qui sentent un peu comme le micro de Kalindi.
C'est ça. Mon micro pue de la gueule, vous le saurez. Mais d'habitude c'est pas le mien, c'est celui de Cédric. Ça explique les choses.
Non, c'est ah oui.
Oui. En plus c'est vrai, putain.
Ouais, c'est celui avec le bouton que j'ai arraché la dernière fois. Bref, voilà, donc ce truc, ce fromage là. Donc moi, la première fois que j'ai goûté, j'étais là genre ouh là là, c'est fort et tout, et dans ma bouche il y avait comme ça des goûts acides et de goûts de fromage vénère. J'étais genre ouh là là, j'aime pas beaucoup. Mais il y avait quand même un petit truc derrière au fond qui disait ah vas-y, reprends-en. Et donc au fur et à mesure, j'en ai repris, j'ai fini la moitié du truc et c'est donc particulièrement délicieux.
Où est-ce qu'on achète ce fromage qui a un nom chelou et qu'on trouve alors, pas vraiment, ouais, donc, supermarché apparemment?
Le César Regalis, alors je crois que moi je l'ai trouvé chez un fromager.
Oui.
Il coûte ça doit coûter autour de 10 balles, mais la bonne grosse tranche et qui tient deux bonnes grosses semaines. Et en fait, ouais, fait intéressant, il devient de plus en plus bon quand il vieillit dans ton frigo.
Il est bonifié avec le temps, c'est vrai. Mmh. Non, en fait, est-ce que c'est pas les propres des fromages? Plus en fait, tu les laisses affiner, meilleurs ils sont.
Je crois que c'est le principe du fromage. Mais tu sais, je suis encore vraiment néophyte et newbie hein, dans ce monde.
T'as un monde qui s'ouvre à toi, tu vas découvrir le gorgonzola, ça va être ouf ta vie.
J'aime bien sur les pizzas, j'aime pas encore genre normal. Là, je fais et tu fais
c'est,
oh,
c'est une addiction,
du gorgonzola,
le gorgonzola
et du pain.
Ok. C'est une drogue dure.
Bah voilà, le César Regalis.
Bienvenue dans le monde des fromentons. Bon. Ouais. N'en amène pas trop à la rédac car ça pue quand même très très fort.
Bah celui-ci, alors l'avantage c'est que comme c'est un brebis, il pue pas.
Ah cool.
Il pue pas et il a un goût genre bien vénère de pied comme les gens qui aiment le fromage, ils kiffent. et je crois que comme c'est un brebis, en vrai il est un petit peu plus light que du vrai roquefort. Parce que le vrai roquefort vraiment, genre c'est, ouais, t'as envie d'aller chez le dentiste après quoi.
Ouais, je comprends. Je comprends cette haine du roquefort. Moi, pas.
Tellement tous les fromages forts. Miam, 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 miam.
Je sais pas d'où ça vient.
J'ai envie de faire un jingle avec ce son à chaque fois qu'on parle de bouffe. Miam, 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 miam.
Et bah justement, tant qu'on parle de bouffe, Mimi, est-ce que ton mini-kiff, ce serait pas de la bouffe aussi?
Miam, 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 miam. Miam, 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 miam.
Tout à fait. Oh là là, elle est forte
en transition. Oh, on dirait que c'est son métier. Hein. Oh là là.
C'est fou.
Oui, moi, mon mini-kiff. Alors, pourquoi j'ai peut-être dit un peu sèchement à Cédric, ouais, qu'il fallait pas qu'il le prenne, c'est parce que comme il a découvert hier et qu'il est retourné aujourd'hui, je me suis dit ah oh non, il a tellement kiffé, ça va être son mini kiff et moi j'en ai pas d'autres.
Tu connaissais pas
ça.
Mais tu connais rien en bouffe?
Non, je connaissais les ça mais j'avais pas encore j'avais pas encore goûté un très bon.
Ok. Donc le mini-kiff, ce sont les banh mi, c'est des sandwichs vietnamiens.
Oui.
Et il se trouve qu'il y a un truc à côté de la rédac qui s'appelle Bulma, qui fait, donc c'est rue des Petites Écuries, si vous êtes à Paris et que vous voulez y aller, c'est très bon, qui fait des banh mi. Donc en fait, c'est des sandwichs vietnamiens avec pas beaucoup d'ingrédients. Il y a une protéine, donc il y a environ toutes les viandes, bœuf, porc, poulet, poisson. Il y a deux options végé qui sont du tofu grillé et du tempeh.
C'est oui, bon.
Et avec ça, t'as des carottes râpées vinaigrées, du concombre râpé hyper finement, en tranches hyper fines vinaigrées aussi, et de la coriandre, mais genre de la coriandre en mode comme si c'était de la laitue, quoi, ils t'en mettent plein. Alors, moi, je suis la personne qui a les gènes qui fait que je ne supporte pas la coriandre parce que c'est dégueulasse à crever, que ça a un goût de savon et que ça donne son goût à l'intégralité du plat, vraiment.
Est-ce qu'on veut garder des gens comme toi dans le patrimoine génétique?
Ça va, tu viens découvrir le roquefort. Calme-toi. Calme-toi, Cédric. Tu mangeais des Babybel pendant 30 ans. C'était triste, ta vie. Et donc, ce qui est bien, c'est que comme à Bulma, ils font ton banh mi à la commande, tu peux prendre 100 coriandres et tu es sûr qu'aucune coriandre n'aura touché ce plat. Et c'est tellement bon, c'est juste un sandwich qui fait la taille d'une demi-baguette dans du super bon pain, oui, avec genre tellement de goût, et c'est pas vraiment gras, je pense.
Ça dépend de ce que tu prends.
La
parce
mayonnaise
que toi,
citronnelle, à mon avis, c'est...
Ouais, mais ils en mettent pas des doses, tu vois, de ouf. Genre, ils mettent un peu de mayonnaise au citron dedans. Mais
c'est quand même globalement pas fat, ouais. C'est trop bien. Ah, il y a le piment.
Ah oui, et ils ont un piment qui dose très bien. Et tu peux demander plein de piments et t'as vraiment plein de piments, quoi. C'est pas genre...
Ah, et si tu veux vraiment, genre, vachement, vachement de piment, ils te proposent un super piment qui est encore plus pimenté que l'autre piment.
Waouh!
Oui, c'est bon, ils ont tout compris à la vie.
Du coup, voilà, c'est à côté de la rédac, ça coûte 6 balles. Et vraiment, c'est une addiction, je pense.
Ouais.
Qu'on peut le dire.
Moi, j'ai goûté ça aujourd'hui et c'est très bon. Et apparemment, Cédric veut en manger pendant tout le mois de juin.
Oui.
Challenge
tous les jours. Tu peux vraiment prendre 30 photos du même banh mi.
J'avoue.
Et tu peux te dire que là, c'est un jour un banh mi.
Non, oui. Mais c'est lui en train de les manger. Il faut qu'il ait un t-shirt différent à chaque fois.
Ah oui.
Mm-hmm. En fait, nous, on avait fait un truc très drôle pour le départ d'une pote avec qui on bossait. En fait, elle arrêtait pas de manger des bananes. Et en fait, pendant des mois en scred, on l'a pris en photo en train de manger des bananes. Et pour son pot de départ, on lui a offert, on lui a révélé l'existence d'un Tumblr où on avait mis toutes les photos d'elle en train de manger des bananes. Et elle a découvert ça et c'était très drôle, ouais.
Qui veut faire le... Ah bah moi, je peux faire mon mini-kiff à moi, tiens.
Oui, d'ailleurs. Allez, vas-y.
Eh bien, moi, mon mini-kiff, c'est vraiment un truc très rapide, c'est que j'ai écouté un DJ set d'une DJ qui s'appelle Louise Chen cet après-midi pour travailler. Elle a été faire un DJ set dans une radio qui s'appelle The Lot Radio, qui est une radio à New York, où tu peux regarder en live les DJ sets des gens qui passaient du son dans la journée, et c'est très cool. C'est une radio que j'aime beaucoup, et j'ai découvert qu'elle avait fait un DJ set là-bas, et Louise Chen est aussi une DJ que j'aime beaucoup, et du coup j'ai fait formidable, j'ai écouté ça cet après-midi, et pour travailler c'était parfait.
Trop bien, voilà, tu nous passeras le truc, parce que moi je suis toujours à la recherche de gens à écouter pendant que je travaille.
Et ben là c'était très cool, j'ai commencé à écouter en début d'après-midi, c'était un peu jazzy et tout, et après ça part dans des trucs un peu plus électro, et c'était très bien.
Excellent. Trop bien.
Voilà, je vous mettrai le lien Louise dans Chen. Les notes. Voilà, Louise Chen, allez la suivre sur Instagram, cette meuf a un excellent style.
Trop cool.
Et elle mixe dans toutes les soirées privées de toutes les marques parisiennes, et c'est assez, je sais pas, j'aime bien regarder ce qu'elle fait. Elle est là, oui, alors là, je vais mixer chez Dior, et là, chez Chanel, et machin, je suis là, très bien. Ta vie a l'air sympa. Elle a toujours des styles excellents, du coup.
J'adore quand les gens disent « c'est assez », j'ai envie de crier « dauphin » à chaque fois, mais c'est nul.
Oh, c'est très drôle. Si, c'est tellement mignon.
Est-ce que c'est le fait que Cédric valide ta blague est un signe que c'est une bonne blague?
Non mais, aussi. Non, mais des fois, il y a des blagues qui sont mignonnes, comme celle-ci, elle est mignonne, c'est assez
dauphin. Oh, il est tellement... Mais
ouais,
gentil.
Des fois c'est chou, des fois les beats sont chou.
Louise Chen, ok. Voilà. Tu connaissais Cédric, toi qui connais tout à la musique?
Non, je connaissais pas Louise. En fait, j'ai une très petite culture en DJ et en
électro
et
de la
scène.
Ouais.
Ouais, voilà. ça m'intéressait vachement moins jusqu'à très peu de temps, donc je suis une très petite culture. Je me suis arrêté à Hélène Alien, effectivement.
Ok, oui.
C'était il y a 10 ans.
Mais c'était cool, Hélène Alien.
Bah, carrément, ouais.
Qu'elle continue.
Oui, mais elle est encore programmée régulièrement dans les festivals.
Ah bah ouais, non, mais elle est super forte.
Hélène Alien, qui est une DJ
allemande
et
Tottenham,
qui...
mais peut-être à moitié bretonne.
Putain. Tous ces gens bretons qu'on ignorait.
Le top 10 des plus grandes célébrités bretonnes. Un article comme ça, toutes ces stars dont vous ignorez qu'ils étaient bretons. Yes. N'hésite pas à le faire, à mettre des commentaires.
Comme l'oncle Picsou. Non, j'aime bien ce truc.
Je comprends pas ce qu'il dit.
Non. Bah, l'oncle Picsou. Non, mais tu sais, j'aime bien en fait
c'est
truc.
C'est drôle
de
parce qu'il existe pas.
Tu fais. Voilà.
D'accord.
J'aime bien ce machin. Tu commences à faire un truc qui est très pratique et tu dis, mais qui peut être ça, ce moitié breton? Et t'es là, tu fais. Ah,
je comprends que ça te
Donald. Et comme il est marrant, c'est, tu vois, ça fait sens avec Donald.
N'hésitez pas à envoyer un mail à soutenir l'humour de Cédric @ mademoiselle.com.
Ah, personne va écrire. Appelez une ambulance.
Voilà, donc c'était mon mini kiff et c'était voilà, juste j'avais envie de faire la promo de cette meuf qui est très cool.
Trop bien.
À toi, Kalindi.
Quoi?
Elle a dû trouver son kiff à la dernière minute et ça doit être totalement débile.
C'était pire. En fait, vraiment, j'avais aucune idée. Du coup, j'ai décidé de vous parler d'un truc qui m'a animée la nuit dernière. J'ai fait un rêve qui m'a vachement plu.
Oh non, on en est au stade, je raconte mes rêves
mais
dans
non,
un podcast.
Non, alors pourquoi? Non, mais c'est vraiment intéressant, parce qu'en fait,
confession
très souvent,
nocturne.
Je rêve que je suis avec des orques, mais les animaux marins. Et en fait, très souvent, je rêve qu'ils me bouffent le cul. Enfin, pas vraiment le cul, mais qu'ils me bouffent la gueule. Et je sais pas ce que ça veut dire, mais c'est un truc qui revient vachement. C'est je rêve que je me fais défoncer la gueule par des orques. Bref,
c'est hier, passé.
J'ai rêvé. Je bois une gorgée d'eau. J'ai rêvé que j'étais une espèce de princesse des océans, en toute humilité. Et
dans les rêves comme dans la vie.
Mmh. Exactement. Et en fait, j'étais à deux doigts de me faire bouffer par un putain d'orque. Et il y a des otaries qui sont venus vraiment me secourir de ouf. Et je me suis dit, ça va pas durer très longtemps, ce rêve. Mais quand je me suis réveillée, je me suis dit, putain, c'est la première fois de ma vie qu'on vient me sauver des dents d'un orque. Et je me suis dit, qu'est-ce que ça signifie? Peut-être que ça signifie qu'avant, j'avais peur d'un truc. Et que là, on est venu me défendre. Et peut-être que j'ai éliminé une peur. Voilà, du coup, j'étais très contente. Je me suis réveillée en ayant un sentiment de satisfaction. J'avais envie de rester encore un peu avec ces otaries à me dandiner dans la flotte. Voilà.
À mon avis, c'est nous les otaries.
Ouais.
C'est Cédric, Louise et moi. Ouais. Mais via le rire que ce podcast t'apporte au quotidien.
Mais je rêvais de ça avant d'entrer chez Mademoiselle, mais tu surestimes un peu le rôle que vous avez dans ma vie quand même.
Totalement cassé l'ambiance. Je vais reparler de Casey Neistat car c'est ma passion.
On l'adore.
Il a sorti une vidéo il y a 2-3 jours, je crois, avec un mec qui s'est vraiment fait bouffer par un requin. Et qui s'est, ouais, voilà, je dis bonne ambiance. Qui a perdu une main et un bout de jambe. Et genre, dans une seule bouchée, quoi. C'est-à-dire que le requin est arrivé, il lui a arraché.
Ils sont gloutons, hein. Ouais, ils sont pas vraiment des manières comme ça.
Et quand même, le gars, qui est un mec qui est dans l'armée aux États-Unis, qui a été ultra entraîné, c'est une masse, laisse tomber, il a des bras, ça fait mes cuisses. Et
maintenant, du coup.
Mais si, parce qu'il a, en fait, il a survécu, ce mec. Voilà,
oui,
c'est ça l'idée.
Il a plus des bras.
Mais si, rouge, il a perdu une main, rouge. Il a pas perdu un bras.
Heureusement qu'il y a Cédric pour me suivre sur cette vanne.
Bordel. Et donc bref, ils ont fait une vidéo très intéressante où le mec parlait de ça et il disait qu'avant de se faire attaquer par un requin, il avait de peur se faire attaquer par un requin et parler en public. Et en fait, depuis qu'il s'est fait attaquer par un requin, il se fait interviewer partout parce qu'en fait, il manque quand même une jambe et un bras et que ça reste une force de la nature et qu'il continue, je crois, à faire de la plongée et tout. Donc le mec est assez ouf.
Ah, c'était pendant de la plongée?
J'ai peur que c'est pas ce qui est en train d'arriver avec Clémence Baudet. Je suis en train de faire de la plongée.
On a vu dans la Méditerranée, ça.
Oui, il y a moins de chance.
C'est sûr.
Mais c'était où qu'il s'est fait bouffer?
En Australie, ouais. Donc voilà. Donc c'était une vidéo très intéressante, mais j'ai un peu cassé l'ambiance.
À notre auditeur ou auditrice en Australie.
Oui.
Reste loin des côtes.
Hi Australia. pour rebondir sur cette histoire de jambes dévorées, je vous conseille une émission qui s'appelle River Monsters. Et qui en fait c'est un gars, son métier c'est d'aller pêcher des trucs dégueulasses partout autour du monde et surtout sur le fleuve de l'Amazon. Et en fait il sort des poissons absolument dégueulasses, genre des poissons Goliath qui ont des dents de l'enfer. Et en fait un jour il est dans un village africain je crois, et en fait il y a une reconstitution comme d'habitude merdique, parce que c'est ça qui est très drôle aussi dans l'émission. Ils font des reconstitutions de genre ah et là le poisson Goliath a emmené un homme dans l'eau, bon bref c'est très bizarre. Et en fait il va à la rencontre d'une femme qui est mère d'une fille, et en fait un jour elles étaient en train de pêcher à l'aide de filets qu'elles avaient fabriqués elles-mêmes dans une espèce d'osier, et elles pêchaient et t'as un alligator qui est sorti de l'eau qui a arraché le bras de la jeune fille, il s'est jeté après sur son autre bras, et sa mère essayant de défendre sa fille a tapé sur la tête de l'alligator, une histoire comme ça à peu près, et elle s'est fait arracher un bras, et du coup elles ont perdu, je crois que la mère il lui en reste un, ou je sais pas si c'est l'inverse ou non, et c'est vrai que c'est pas très gay, mais tout ça pour dire que en fait elle raconte cette histoire qui est hyper puissante, et elle le raconte.
C'est la tête de Cédric qui l'a besoin.
Il y a 3 minutes, on était sur les banh mi. Et là, les gens, ils ont plus de bras, plus de jambes et tout. Genre.
Ça dérape.
Oh là là.
Non, mais oui, alors vraiment, c'est hyper triste. Mais j'ai trouvé la force de la mère et le courage de la mère hyper, hyper beau, tu vois, d'aller essayer de tabasser un alligator.
Un truc de ouf, genre, elle a essayé de tabasser l'alligator et là, il a ouvert la gueule et elle a récupéré le bras de sa fille. Non.
Ah non, non, c'est juste. Elles se font dévorer.
Il manque des membres.
Mais,
c'est avec la voix. Elle n'aurait pas dû.
Non, mais je sais pas, on était
ultra
mauvaise idée.
Je sais pas, on était sur des membres. Moi, je me suis dit pourquoi pas essayer cette histoire. C'est, voilà, c'est écoute, cohérent, il faut essayer des choses dans la vie.
C'est pas joli.
Ça se voit où, River Monsters?
Je crois que ça passe sur RMC Découverte,
la meilleure chaîne.
La meilleure chaîne.
Celle des
théorie scientifique sur les aliens qui ont créé l'humanité.
Ah, très bon ça.
C'est vraiment la meilleure chaîne, c'est vrai. Et mais en fait, on peut la retrouver, elle est sur YouTube et puis j'imagine qu'elle est en replay sur plein de plateformes différentes. Mais vraiment, c'est alors à part cette histoire qui est hyper glauque, sinon c'est en général des histoires qui se finissent hyper bien sur juste des anguilles avec des dents de fou, genre on croirait des trucs des aliens, genre c'est l'enfer. Et moi, j'adore les créatures moches et tout. Et voilà.
Très bien.
Conclusion, non?
Oui, voilà. Et voilà était parfait. Très bien, on a fait le tour des mini-kifs.
Oui.
Oui.
Très éclectique.
Et très éclectique. Et très rapide pour une fois, quand même.
Oui. Pourtant, on a digressé.
On a digressé.
J'allais dire, est-ce qu'on commencerait pas à devenir un peu professionnel? Oui. Hein.
Bientôt, on sera sponsor.
On passe au gros kiff.
Ouais.
Est-ce que quelqu'un veut commencer?
On fait dans le même ordre que tout à l'heure, comme ça respecte un peu le professionnalisme du podcast.
Quel contrôle fric pour une meuf qui est dans un podcast tellement à la sbeul, t'es quand même très
c'est
contrôle
clair.
Fric.
En fait, moi, je voulais commencer parce que.
Ah, bah vas-y.
Je pense que.
Ah, tu fais genre quelqu'un veut commencer, mais en fait, tu veux commencer.
Ouais.
Je veux tu dois aller manger des ramen, peut-être.
Pas du tout.
J'aime pas trop quand on me juge sur ma consommation de délicieuses nouilles japonaises dans un bouillon délicatement épicé.
Et plein d'huile.
Ok.
Mais vas-y, vous.
Adipudo, sponsorise-nous.
En fait, c'est juste que je pense que mon gros kiff est pas hyper marrant et c'est un peu comme les petites étapes de la vie. Du coup, je pense que vous allez pouvoir vous foutre de ma gueule quelques temps. En fait, samedi dernier, le 26 mai, à l'heure où on enregistre, c'était samedi dernier, en fait, il y avait un... Ouais, attendez, faut que je fasse un brouillon dans ma tête, ça ne va pas du tout.
Si seulement on avait le moindre moyen de faire des brouillons avant le podcast, ce serait bien.
Non, mais sinon, on peut faire une petite musique d'attente. Poum, 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 poum. Tu nous dis quand t'es prête, Louise. Poum,
poum, poum. Je me désolidarise de cette musique d'attente.
Poum, 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 poum.
Elle n'est pas concentrée, elle vous écoute.
Poum, 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 poum.
Je veux savoir combien de temps il tient.
Vas-y, Louise, reprends la main.
Donc, samedi dernier, le 26 mai, c'était le deuxième événement de la Mail Tape, qui est un collectif de gens qui font découvrir de la musique duquel je fais partie, pour lequel je suis bénévole. On organisait donc cette soirée slash après-midi du côté du canal de l'Ourcq à Pantin. Voilà, c'était formidable. Il faisait très beau et on portait des paillettes. Et en fait, j'ai croisé une petite fille qui m'a beaucoup touchée. Et en fait, c'est elle mon gros kiff de cette semaine. C'est une petite fille qui s'appelle Jade. Et en fait, elle est arrivée. Nous, on avait des paillettes. On en foutait à tous les adultes qui venaient nous voir un peu bourrés en nous disant « Est-ce qu'on peut avoir des paillettes, s'il vous plaît ?» Et en fait, elle est arrivée et elle a commencé à nous foutre des paillettes partout, à nous dessiner dessus parce qu'on avait aussi des crayons pour faire du maquillage. Et on a commencé à discuter avec elle. Et elle était juste tellement adorable. Donc c'est une petite fille qui a 10 ans. Elle est trop mignonne déjà, ça bouille. T'as envie d'être sa meilleure amie tellement elle est chou. Elle a des longs cheveux bouclés roux. Elle est trop belle, oh là là.
Ah, c'est rebelle genre.
Ouais, c'est rebelle. J'avoue. C'est un peu rebelle. Et en fait, on a commencé à discuter et elle est ultra intelligente. Elle nous disait qu'elle venait de passer son cycle 2 de violon, donc c'est genre un truc plutôt stylé au conservatoire, voilà. Et qu'elle allait probablement passer le cycle 3 d'ici un ou deux ans. Et j'étais avec une pote qui a fait le conservatoire et elle était là. Alors vraiment, le cycle 3, c'est vraiment très très dur et du coup, je comprends pas comment elle peut faire ça. Et en fait, c'est un petit génie. Et elle était trop mignonne et on a parlé de plein de trucs et je sais pas pourquoi, elle m'a trop touchée. Et à un moment donné, on discutait et elle parlait du fait que bah y avait des gens qui l'embêtaient à l'école et que
on va aller des boîtes.
Ouais, c'est ce que j'avoue. Je lui ai dit on va aller des boîtes déjà première chose. Et en fait, j'avais trop envie qu'elle prenne confiance en elle et j'étais là genre Fati, tu peux faire plein de trucs, t'es trop mignonne, tu vas y arriver et tout. Et à un moment donné, j'avais des boucles d'oreilles ananas et un collier ananas et elle avait grave kiffé dessus. Et du coup, je lui dis tiens, si tu veux, je te donne mon collier. Et en fait, elle était là, oh mais non, mais quand même, bah, c'est ton collier, il va bien et tout. J'étais là, bah, tu sais, c'est mon collier, mais en vrai, c'est la première fois que je le mets en 6 mois, donc peut-être tu vas plus le mettre que moi, tu vois. Et du coup, je lui donne, elle était trop contente, et je lui dis, à chaque fois que tu le regardes, tu te dis toi que t'es trop forte.
Trop forte.
Putain, mais c'est clair, t'es une.
Et c'est deg de pas avoir eu de Louise quand j'avais 10 ans.
Non, mais surtout, nos kiffs, ils vont être merdiques à côté de celui de Louise. Ah, on va passer tous pour des méchantes personnes. Fais chier,
parle
Louise,
pour toi.
Toi, c'est pas dur.
Et du coup, après, on était voir. Donc, elle était avec sa mère et tout. Et donc, on a été voir sa mère. J'étais voir sa daronne. Je lui dis, je veux bien être babysitter officielle si vous avez besoin. Une fois par mois, vous m'appelez. Je suis sa babysitter, y a pas de souci. En fait, elle dessine hyper bien. Elle a commencé à nous dessiner des trucs sur les bras et tout. Et à un moment donné, moi, j'étais en short.
Elle est douée en dessin.
Oui, non, mais c'est ça. Et moi, j'étais en short, je lui dis, vas-y, si tu veux, je te donne mes cuisses, tu fais une œuvre d'art, tu fais ce que tu veux. Alors, elle m'a dessiné une fleur d'un côté et de l'autre, un cœur avec des ailes. Bon, ce qui n'est pas forcément de mon goût, mais c'était juste si bien fait. Elle était trop mignonne et trop appliquée. Et du coup, elle le regarde à la fin, elle était là, oh, c'est nul et tout. Et j'étais là, non, vraiment, enfin, tu arrives à faire des proportions que moi-même, je ne sais pas faire alors que j'ai 25 ans. Et en fait, je lui ai... Enfin, je sais pas, j'avais trop envie de l'encourager, de lui dire, en fait, t'es... Aie confiance en toi et reste forte comme t'es parce que t'es trop adorable. Et j'aimerais bien que toutes les petites filles, elles fassent ça, qu'elles aient confiance en elles comme cette petite, elle avait confiance en elle a priori, même si elle... Elle a sûrement des doutes et des failles, mais voilà, je sais pas, je l'ai trouvée trop mignonne et je voulais en faire
c'est
mon kiff.
C'est trop mignon,
voilà.
C'est trop chou. C'est trop mignon. En vrai, notre podcast, il manque de moments de vie comme ça où en fait on rencontre des gens et où en fait c'est trop bien.
Parce qu'on aime pas les gens.
Mmh. Bah parle pour toi. Moi, j'adore les gens, surtout nos auditeurs.
Ouais, tu préfères les otaries.
Tu viens de dire que tu les
comment
détestais.
Elle gratte l'amitié des auditeurs. Suivez-la, @calrumpel sur Instagram.
Ah oui, bah, allez-y là, hein, allez-y. Hein. Il est temps, oh, il est oui. temps. Hein.
Déjà 3000.
Déjà plus de 3200.
Je pense que ce chiffre sera périmé d'ici à ce que cet épisode sorte.
Oui, écoutez, j'espère. Mais c'est trop mignon cette histoire.
Grave.
Est-ce qu'on pourrait pas la faire venir? Allez, je me prends pour Patrick Sébastien. Est-ce qu'on pourrait pas la faire venir derrière toi?
Elle est derrière moi. Bah salut Jade.
C'est trop chou.
Ouais, non mais elle était... Ouais, je sais pas, elle était trop mignonne. Et du coup, comment dire, elle m'a rappelé ma petite sœur et du coup j'avais envie de voir ma petite sœur après parce que ma petite sœur a 10 ans aussi. Et en fait tu sais c'est en ce moment je l'écoute le podcast Entre de Louis Média où c'est une petite fille qui rentre en 6e et qui raconte ce qui lui arrive au collège et aussi dans sa famille. Et en fait cette gamine qui rentre en 6e, tu sais dès le premier épisode qu'elle va se faire bolosse parce que elle a le profil, quoi. Genre, elle est trop mignonne, elle est intelligente, elle a l'air de s'y connaître en plein de trucs et d'être curieuse de la vie. Du coup, tu te dis
c'est
bon.
C'est tragique que ça soit ça le profil.
Yes,
c'est
ça,
tu vas te faire baiser la gueule par la vie.
Ouais.
Cordialement.
Et du coup, en fait, en ce moment, j'écoute ce podcast-là. Et donc, elle, la petite là que j'ai croisée, elle était en CM2 et elle disait que l'année prochaine, elle rentrait en 6e et tout. Et du coup, j'étais là, genre, meuf, n'oublie pas que tu déchires et même si les gens ils se foutent de ta gueule et que c'est des connards, tu t'en fous.
Est-ce qu'on peut pas faire un truc de film américain où en septembre, on l'emmène toute la rédac de Mademoiselle l'emmène au collège pour son premier jour.
J'aimerais trop.
Avec des rosters, avec genre Marion Séclin et tout, tu vois. De ouf,
comme ça, elle arrive. Trop. Bon, par contre, elle a une cible sur la gueule en arrivant.
Ouais, c'est
direct.
Clair.
Genre, ah ouais, c'est la meuf qui fait pas comme tout le monde. Du coup, est-ce que c'est l'aider
gâcher la vie.
Voilà.
Mais bah, on peut lui demander son avis.
Oui, on peut lui demander son avis. Donc, elle était déjà en train de réfléchir à ce qu'elle allait faire comme bac. Est-ce qu'elle allait plutôt faire un bac S ou un bac L. Et du coup, elle nous demandait, nous, ce qu'on faisait et ce qu'on avait fait comme études. Et du coup, je lui ai expliqué ce que je faisais, community manager et tout, et elle était là, ah, mais c'est hyper intéressant, moi j'aime bien ça, mais j'aime bien aussi les sciences et tout. mais genre, elle est trop curieuse
Quelle
de tout.
Quelle est ta stratégie Pinterest?
<C'est ça. rire> Mais t'as gardé un moyen
en termes de stats.
T'as récupéré un moyen de la
compléter. Bah, du coup, oui, j'ai été voir sa daronne et...
Je veux votre enfant.
J'étais là, genre, vraiment. Enfin voilà, bref.
C'est très très
c'est
mignon.
C'était
ouais,
c'était
parfait. Très très mignon.
J'ai
c'était le meilleur gros kiff depuis le début de ce podcast.
C'est clair.
Clairement. Bah voilà, merci. J'ai pas de conclusion.
T'aurais pu le garder pour la fin parce que maintenant on doit passer après toi.
Oui.
Voilà, c'est ce que je disais tout à l'heure. On va passer pour les bolos. T'as dit qu'on allait avoir l'air méchant.
C'est vrai.
Personne n'est méchant dans ce podcast.
Ben non. Presque. Surtout que vous parlez de vos kiffs, donc a priori vous êtes pas méchant.
Non.
À moins que Mimi parle du fait qu'elle kiffe détester les Bretons.
Je kiffe râler sur les Bretons, c'est mon kiff principal dans la vie.
C'est pas vrai, c'est faux.
Est-ce que tu veux parler de ton vrai gros kiff?
Oui.
Et en plus, ça va, il est cool, il est genre un peu humain et tout comme ça.
Ouais.
Ça va. Mon gros kiff de la semaine, et spécialement du jour, puisqu'on enregistre ça le mercredi 30 mai, c'est la masculinité. Yes.
Yes.
Parce que donc, ça fait maintenant plusieurs années que je tiens officiellement la rubrique masculinité de Mademoiselle, parce que c'est un thème qui m'intéresse, et donc la masculinité, c'est comme la féminité, mais pour les mecs, donc tous les codes qui régissent, ça veut dire quoi être un mec, au-delà de juste « tu te sens mec, c'est cool ». Et c'est des codes qui peuvent être assez rigides, voire assez douloureux, et c'est compliqué. Bah, comme une femme, on doit être un peu tout à la fois, et c'est impossible d'être à la fois douce et sensuelle et sexy et ambitieuse, mais pas trop, et une super maman, et en même temps une bonne copine. Et ça fait trop pour une personne.
Oui.
Bah, pour les mecs, c'est un peu pareil. Ils ont plein de rôles contradictoires. Et du coup, moi, ça m'intéresse. Et en plus, comme je veux l'égalité homme-femme, bah, je pense qu'on n'y arrivera pas si la moitié de la population n'a rien à foutre. Donc bah, c'est important pour moi que les mecs se sentent aussi impliqués dans cette histoire de déconstruction des stéréotypes. Et bah, il y a quelques années, quand j'ai lancé la rubrique, bah, j'étais bien toute seule en France. Sur le, enfin, je dis pas ça en mode j'étais pionnière sur le sujet parce que vraiment il y a des gens qui ont pensé avant moi, mais c'était pas un sujet qui intéressait grand monde. J'étais un peu toute seule et les réactions, bah, un peu comme au début quand tu commences à parler féminisme, les réactions c'était un peu on s'en fout, c'est pas des vrais problèmes. Ouais. Voilà, c'était bon.
Il y a quand même la guerre en Syrie, hein.
Oui. Est-ce que tu penses aux hommes qui se font tuer à la guerre? Oui. Pas moi, ma problématique, mais ça en fait partie.
Mais n'empêche, pour intervenir dessus, je pense que je faisais aussi partie des gens qui pigeaient pas ce besoin de discuter de masculinité il y a quelques années. Et que, ben, pour le coup, particulièrement en suivant Mademoiselle et beaucoup de tes articles sur la masculinité, qui en plus ont gagné en profondeur, en volume, en intérêt, même s'ils étaient déjà particulièrement brillants dès le début. J'ai fini aussi par me dire, tiens, mais t'es des trucs quand même un peu là-dedans, là, ça gratte et tout. Jusqu'au lancement du Boys Club où là, on plonge dedans complètement. Mais effectivement, ce sentiment que j'étais déjà très alerte, beaucoup plus alerte sur les questions de féminisme, et je me disais pas qu'il y avait un équivalent, tu masculin, vois, l'envers du miroir sur la masculinité.
Ah,
et
bah, écoute,
tu es l'une des personnes qui me
fait l'idée.
Prendre conscience un peu de tout ça.
Elle est fière.
Oui, bah oui, elle est fière.
Écoute, mais oui,
ça fait plaisir quand tu fais un truc avec une idée derrière la tête et que ça marche.
Ouais.
Parce que tout le but, c'était ça, c'était que les mecs lisent ça soit spontanément, soit parce que leur meuf ou leur pote ou leur mère ou leur sœur leur file et que ça crée une réflexion et un dialogue, quoi, qu'ils en parlent entre eux et tout. Et du coup, pourquoi je suis contente? C'est parce que donc, pendant un moment, j'avais l'impression qu'on était quatre perdus dans le monde à dire la masculinité, c'est intéressant. Et bah, maintenant, ça va vachement mieux. Et donc là, j'ai eu un combo puisque aujourd'hui, j'ai sorti donc, l'épisode de The Boys Club, qui est mon podcast sur la masculinité qui existe depuis octobre. Il en est à son 13e épisode, donc aujourd'hui j'ai mis en ligne l'épisode avec Guillaume, que j'aime beaucoup. Je suis très contente de cet épisode, j'ai passé un super moment. Hier soir, j'ai enregistré un autre épisode.
Explique qui est Guillaume.
Oui, pardon. Alors Guillaume, en fait, ouais, c'est toujours. Il fait beaucoup
Guillaume
de choses.
Guillaume de YouTube.
Guillaume de YouTube. Il avait une chaîne qui s'appelait Masculin Singulier, qui a commencé comme un genre de parodie de youtubeuse beauté, et qui en fait disait plein de trucs en filigrane sur la masculinité. Du coup, j'étais grave contente de l'avoir. Après, il a une chaîne qui s'appelle Hangover Cuisine, où il fait de la cuisine. Il tient le club avec Pierre Lapin. Et
oui.
Et il a un podcast sur Nouvelle Écoute qui s'appelle Bouffon, et qui est un podcast sur la nourriture. Et il a sorti, là, il sort dans une semaine, son premier livre de recettes qui s'appelle Saison. Donc voilà, une personne compliquée à résumer.
Oui.
Et donc, moi, j'aime bien ce qu'il fait. Je pense que Masculin Singulier, ça date un peu. Hein. C'était, je pense, en 2014, un truc comme ça. Ça a été une de mes premières réflexions sur la masculinité, de voir ce gars qui faisait ça. Ouais. Et au début, je pensais vraiment que c'était un truc juste pour se foutre de la gueule des youtubeuses beauté. Donc j'étais un peu genre, oh, ok, super original. Ouais. Et en fait, non, ça allait plus loin que ça. Et j'étais en mode, c'est bizarre ce qu'il fait. Et du coup, je suis très contente des années après, même s'il a arrêté Masculin Singulier, de l'avoir dans The Boys Club. Et donc voilà, cet épisode est sorti aujourd'hui. Il est disponible. Abonnez-vous. Il est très chouette. Et hier, j'en ai enregistré un. Alors, je vais dire avec qui c'est. Fabi l'a dit qu'il faut jamais dire ce que tu fais avant que ce soit en ligne, ou genre au cas où tu perds les rushs ou quoi, après les gens ils sont tristes. Mais comme normalement j'ai sécurisé la chose.
La malédiction va frapper. Attention.
Je l'ai mis sur l'ordinateur, c'est bon. Hier, j'ai enregistré un épisode de The Boys Club avec Le Pérave, qui est notamment pas mal sur Golden Moustache et dans les vidéos de McFly et Carlito, oui, qui était tellement bien. Enfin, j'ai tellement kiffé faire cet épisode, je suis sortie, j'étais super heureuse et hyper émue et tout. Et je sais pas, j'étais là en mode, oh, un garçon qui va, je vais pas spoiler, mais un garçon qui va bien, mais en même temps ça a pas toujours été facile. Enfin, il a eu un parcours hyper intéressant, donc j'étais ravie, c'était trop bien. Et en plus, aujourd'hui, il y a la Fondation des Femmes qui a sorti une campagne qui s'appelle Tu seras un homme, mon fils, qui est une campagne pour l'égalité centrée sur les hommes et la transmission des codes masculins et des codes du sexisme de père en fils, et comment la briser et transmettre des codes positifs à leur fils. Et donc le spot de campagne, il est narré par Oxmo Puccino, qui adapte un peu au monde moderne le poème Tu seras un homme, mon fils, de Rudyard Kipling, et c'est hyper émouvant. Donc dans le spot, t'as plein de pères et de fils plus ou moins grands qui affrontent des situations de genre bah qui perdent, il y en a un qui perd une compétition de natation, il y en a un autre qui joue avec sa sœur et en fait il a sa sœur gagner, il y en a un qui aime bien une fille mais sans être relou avec la fille, il y en a un qui défend une pote face à un mec relou, enfin c'est plein de situations où en fait les codes du sexisme voudraient que ce soit fait de façon nulle, et bah là ça montre comment ça peut être fait de façon bien, et c'est vraiment simple quoi, c'est pas un truc genre change l'intégralité de ta façon de voir le monde. Donc j'étais trop contente de voir une campagne de grande ampleur en France qui s'appelle Tu seras un homme mon fils, et parce qu'en France vraiment il n'y a pas grand chose sur les questions d'égalité de masculinité, ça commence mais c'est pas la folie quoi. Et en plus, le spot, il va être diffusé le 1er juin avant le match France-Italie, avant la Coupe du Monde. Ah, yes. Et du coup, c'est genre tout le monde, tous les hommes du monde vont le voir, car beaucoup d'hommes aiment le foot et beaucoup d'hommes regardent le foot entre père et fils. Et du coup, je suis trop contente parce que j'ai l'impression que ce que je fais, bah, ça, parce que je fais le truc auquel je participe, le mouvement de réflexion sur la masculinité, il grandit et il devient légitime. Et je me dis, en fait, on est passé de quelques articles pétés où les gens ils faisaient MDR, les mecs, ça peut pas se faire violer, à un truc un peu plus BG et qui va donner des vrais résultats, et du coup je suis très contente.
Bravo,
Mimi, c'est trop cool.
Très enthousiasmant,
c'est trop bien.
Je trouve que bravo. C'est super intéressant, en plus pour le coup c'est un truc que je me suis dit assez récemment, que en fait les mecs ont besoin des nanas pour parler de la masculinité. C'est super important, et au contraire je trouve que c'est vital que les meufs amènent le sujet de la masculinité pour les gars, parce qu'en fait même en regardant les stats de Boys Club et globalement les stats de tous les formats sur la masculinité, c'est quand même aujourd'hui encore principalement regardé, écouté, téléchargé par des nanas, et la portion
et
des gars
est fait par des nanas aussi.
Est fait par des nanas, parce que évidemment c'est elles qui se posent ces questions-là, parce que chemin de la du féminisme qui déconstruit. Et en fait, de la même façon que on a besoin des gars aujourd'hui pour porter le féminisme, élargir en tout cas l'impact quoi dans la société et porter le message en tout cas, on a besoin des nanas pour justement adresser ce sujet de la masculinité, parce que les gars tout seuls vont pas le faire, parce qu'ils voient pas forcément le problème.
Ouais, et c'est un truc très intéressant dont tu parles dans le tout premier épisode de The Boys Club avec Arthur, où il dit entre gars on parle pas trop, à moins d'être un peu voire beaucoup bourré.
Mais ça ils le disent tous, le Pérave l'a redit hier, et il dit en fait en gros, c'est vraiment spoilé cet épisode. Je sais pas si je fais bien de faire ça, au pire, Fabien dira en cut. En gros, il a une bande de potes qu'il connaît depuis 10 ans et ils font que des vannes et ils parlent de trucs sérieux. Ils se disent je t'aime et tout que quand ils sont pire que torchés. Et du coup, en fait, ils se connaissent, mais pas vraiment. Genre, il me dit, mais en fait, il y en a dans la bande, je sais pas ce qu'ils font comme métier. Tu vois.
Quoi ?
Alors que
c'est à ce point-là ?
Bah ouais, parce qu'en fait, vraiment, mais je vois.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Exactement comment ça peut se passer. Ils font des vannes tout le temps sur leur conf de groupe. Ils se voient que en groupe. Ils font des vannes, ils boivent des coups. À la fin, ils sont là. Tu sais que je t'aime, mec. Ils font moi aussi.
Mais comment veux-tu faire des blagues de qualité si tu peux même pas tacler tes amis sur leur profession? Je veux dire, ça n'a pas de sens. L'essentiel de mes blagues, c'est sur la profession des gens qui m'entourent. Enfin,
où est le potentiel que c'est plutôt sur.
Où est le potentiel d'homme?
J'avais juste ta carrière, ta vie et tous tes choix. Le mauvais génie, quoi.
Mais c'est intéressant parce que moi j'ai l'impression que c'est ça aussi dans mes bandes de potes, notamment les bandes de potes avec qui j'étais au lycée, de Saint-Naz.
La situation géographique aussi.
mais j'ai vraiment eu cette impression-là pendant un temps. Je sortais avec un gars et ils sont au moins 6, 7, 8 mecs à être pareils. Ils ont une conf WhatsApp où ils s'envoient des photos de leur bite et de je sais pas quoi, tu vois, mais genre vraiment à longueur de temps en train de faire des vannes. Et des fois, tu parles avec eux, toi, en tant que meuf, et t'arrives à leur tirer les verres du nez sur moi, mon mec, il se sentait pas bien dans plein de trucs et tout, et j'essayais de comprendre ce qui se passait, pourquoi il était pas content et tout. Et j'étais là, mais t'en parles, genre, avec tes potes, et non. Enfin, genre, ça n'arrive pas. Ou alors, il faut qu'ils soient exceptionnellement que deux et que...
Oui, c'est ça aussi, c'est qu'ils se voient beaucoup en bande.
Ouais, c'est
et
ça.
Du coup, moi-même, j'ai une bande de potes et quand on se voit en bande, on n'est pas forcément sûr, ok, là ça va pas et tout, j'ai envie de le raconter, bah, c'est pas la dynamique. Après, ouais. Je pense que ça arrive plus souvent dans ma bande que dans les bandes de mecs. Vraiment, il y a non mixte, les réunions non mixtes de mecs qui boivent des bières, mais ils se voient pas tous les deux, en fait, c'est chelou. Même Arthur, ses amis, il les aime beaucoup, il les connaît très bien, et en fait, il propose d'aller boire des coups. S'il y en a qu'un qui est dispo, ils disent ah bah du coup non. Enfin, ils se posent même pas la question, ouais. C'est bon bah du coup vous êtes pas dispo. Et je suis là, mais il a dit qu'il pouvait, ouais, mais on va pas se voir tous les deux. Je suis en mode ah bon, voir ses amis, pas tous non. Les deux, d'accord. Mais du coup, je pense que ça arrive et que en fait on va avoir de plus en plus de mecs qui ont fait ce chemin-là, ont pris ces réflexions-là et vont commencer à les appliquer un petit peu dans ouais. Leur vie amicale et personnelle et tout. Et du coup, ça va faire boule de neige et peut-être que dans quelques années, peut-être quelques décennies, d'accord, on dira plus qu'il y a besoin des meufs pour porter ce sujet-là, parce qu'en fait, les mecs, naturellement, ils en discuteront entre eux.
Ouais,
tu vois.
Ouais, mais c'est ce rapport à l'intimité qui est déjà pas évident quand t'es en couple. Alors, quand t'es avec un autre pote mec, effectivement, c'est un truc qui se travaille et s'apprend au fur et à mesure. Mais en fait, moi, j'ai des potes, des groupes de potes différents où ça dépend avec quel groupe de potes. Ouais. Tu vas pouvoir parler d'un sujet ou pas.
Oui.
Tu vois, de tout le truc. Et effectivement, l'intimité.
Tu m'expliqueras ça dans ton
boys
club.
Ouais.
Que tu viendras
l'intimité
faire.
L'intimité est tout un vaste sujet.
Tiens, j'aimerais trop être un mec pour faire The Boys Club, je suis dégoûtée.
Mais il y a des meufs qui disent que tu devrais faire The Girls Club et en fait, je dis faites-le parce que vraiment, oui, moi, c'est pas mon domaine. Mais effectivement, ce serait cool de. Alors, il y a sur Mademoiselle, il y a Clémence qui fait Sois gentil, dis merci, fais un bisou, qui est un podcast d'une meuf qui interview une meuf. Mais c'est plus sur leur parcours et leur carrière et leur indépendance et comment elles ont appris à ben justement arrêter d'être gentilles, de dire merci et de faire un bisou et décider de faire tracer leur propre voie. Mais il n'y a pas de podcast où c'est juste une femme qui invite une femme et qui lui demande c'est quoi son rapport à la féminité. Mmh. Ben, ce serait cool, faites-le. Vraiment, n'hésitez pas. Ouais, c'est pas très compliqué de lancer un podcast. C'est un tout petit peu d'investissement au début.
Oui.
Et ce sera cool. Et envoyez-nous un mail pour de vrai. À mimi@mademoiselle.com.
Oui.
C'est une vraie adresse mail.
Une vraie adresse mail. Mmh.
Si jamais vous l'avez
ce
fait.
Ce podcast devient si sérieux. On oui, vraie non, mais c'est tout, putain.
Je suis contente d'avoir suivi Louise parce que je me suis dit, en fait, il n'y aura pas 1000 vannes à faire sur mon gros kiff parce qu'il est un peu genre sérieux et pro. Et du coup, je vous fais confiance pour dire des conneries après.
Tu sais, Mimi, c'est comme la fois où t'es partie manger des ramen. Après, on était sérieux. On n'a pas fait tant de blagues que ça. Merci Mimi pour ce kiff qui est très cool.
C'est vrai que c'est très bizarre parce que pendant tout le podcast, parfois il me regarde et il cherche mon approbation. Genre vraiment, c'est très bizarre d'être assis à côté de lui parce qu'il est là. Parfois vous parlez, il me regarde, il me fait. Mais je suis là, mais pourquoi il veut entrer en contact avec moi alors que je.
En fait, j'attends, tu sais, des fois je me dis, elle va faire une vanne parce que t'es en train de respirer dans ton micro, du coup je regarde.
Non, parfois juste je respire, tu sais. Il m'arrive de respirer sans faire de vanne.
C'est vrai que t'es agressive quand même. Hein.
Hashtag pied personne.
Ah, boom, non, smash. Au fond, tout ça se cache une personne vraiment délicieuse, je vous l'assure.
Oui, on le sait.
Mimi ou toi?
J'allais faire une blague sur le fait qu'on t'avait goûté, mais bon, ça devient sale.
Oh. Non, mais vas-y. Hein. Non. C'est quand tu veux que tu me goûtes. Ça fait longtemps que je te dis, c'est quand tu veux que je mets mon nez dans ta.
Dans ton trou.
Dans ta
fente.
Et oui, parce qu'en fait, il faut dire que Louise se trimballe très régulièrement avec un jean taille haute noire, avec une espèce de fente vraiment qui lui dessine le pli de la fesse.
Le solilès humain.
C'est exactement ça. Et en fait, je n'en peux plus, car j'ai vraiment très envie de mettre mon nez dedans. Ça a l'air hyper moelleux. Et j'ai envie de farfouiller avec mon nez comme ça.
Faut expliquer pourquoi j'ai un trou dans mon pantalon. C'est parce que mes cuisses se frottent et du coup, à chaque fois que j'ai un pantalon que je kiffe et que je mets régulièrement, forcément, j'ai un trou qui se fait au milieu des cuisses, là. Et en fait, j'ai décidé de m'en battre les couilles et de le porter jusqu'à décès.
Ouais, mais toi, ça va parce que ça a déchiré genre l'arrière de la cuisse. Moi, ça fait au milieu des cuisses, mais genre, c'est niqué. Enfin, on ne voit pas ton slip. Moi, on voit mon slip, tu vois.
Ah, d'accord. Ah ouais. Bah non, moi c'est vraiment toujours en bas. Ça me fait un short, mais vraiment short culotte quoi.
Ouais.
On voit presque ma chatte, on va pas mentir.
Oui, mais c'est très joli.
Voilà, on adore ce pantalon.
Moi j'ai vraiment hésité parce que j'ai des vrais kiffs culturels cette semaine.
Contrairement à nous qui sommes des abrutis. Et des idiots.
Non, mais ce que je veux dire, c'est parfois c'est des. Non, mais parfois c'est juste des kiffs. Là, c'est vraiment des très très gros kiffs.
Des coups de cœur.
C'est vraiment des très gros coups de cœur, exactement. Du coup, j'ai hésité entre un bouquin qui s'appelle Le Grand Marin de Catherine Poulain et en fait.
Les Bretons.
et en fait.
Plot twist, oui.
Elle m'ignore. Ah, attends, elle t'ignore. Cédric ne réagit pas. Il n'y a que moi qui...
Il a dit plot twist. Oui,
oui, mais il a vraiment, longtemps réagi après.
À la hauteur, oh là là, de cette...
Voilà.
De
cette...
Ah, mais non, mais elle était vraiment d'une haute qualité. Elle se dégustait intellectuellement.
Quel suceur, de... Cédric.
Désolé, Mimi, je t'aime fort, mais je t'ignorais pour que ça aille vite.
Et regarde comme on a perdu du temps. Le titre de ma sextape.
Mais oui, donc c'était, donc j'hésitais entre ça, Catherine Poulain, c'est juste rapidement, mais pour vous dire d'aller le lire, c'est l'histoire d'une meuf qui est française et qui plaque tout du jour au lendemain pour aller pêcher avec des hommes sur un bateau en Alaska, et elle va pêcher le flétan. Et en fait, c'est plusieurs années de sa vie. Pourquoi tu rigoles?
Ah, mais flétan. Parce que le mot flétan, il est marrant.
Le mot flétan. Mais en plus, je me suis dit, tu vois, Catherine Poulain, le grand marin, j'ai parlé d'animaux marins juste avant. River du coup, Monster, on pourrait dire à Catherine Poulain, t'aurais au moins pu faire un truc sur les écuries. Mais bon, il fallait qu'elle fasse des trucs sur des bateaux.
Le rire diabolique de cette meuf.
Elle anticipe des vannes qu'on fera jamais.
Donc pourquoi faut-il lire ce livre ?
Du coup, c'est vrai, il faut lire ce livre parce que déjà, c'est pas mon gros kiff, donc je vais aller vite. Il est percutant, c'est-à-dire que c'est pas alambiqué, c'est pas ampoulé, c'est pas plein de figures de style qui sont franchement lourdingues. Mmh. Il commence à me saouler le cul. Et vraiment, c'est percutant.
T'as quand même réussi à râler en parlant.
C'est hyper percutant. Et en fait, moi, j'ai toujours adoré les histoires de la... Sur la pêche au flétan, mais bon, bref.
Attends, c'est un vrai truc, ça.
C'est un vrai truc, c'est parce que avant, j'avais regardé plein de documentaires sur la pêche au flétan, parce qu'en fait, les flétans, c'est des très gros poissons, et en fait, on n'en parle jamais. Alors, c'est vraiment...
Je sais pas ce que c'est comme poisson.
Eh ben, c'est un très gros poisson.
Qu'un poisson.
Quoi?
Tu viens de dire, je sais pas ce que c'est qu'un poisson.
Non. Non, je ne sais pas ce que c'est comme poisson.
Ah oui. En fait, c'est un très gros poisson qui est très vilain. Il est noir et brillant. Et en fait, il est si gros que parfois les pêcheurs, pour les extraire de l'eau, doivent les prendre à bras-le-corps dès qu'ils sortent des filets. Ils les prennent à bras-le-corps. Et en fait ce livre, c'est vraiment la lutte des corps entre les hommes et ces gros poissons. Finalement, on entend très peu parler. Je sais pas, j'ai trouvé ça passionnant. Et en fait, t'apprends les trucs de drogue qu'il y a derrière les... En fait, les pêcheurs prennent énormément de drogue pour rester éveillés parce qu'ils ont un métier qui est tellement compliqué. Ils sont pendant des mois et des mois en mer. Et donc, ils prennent pour certains de la coke. Pour certains, ça va jusqu'à l'héroïne. C'est vraiment hardcore. Ouais. Et du coup, ouais, c'est ce quotidien de cette meuf dans un milieu hyper de grosses brutes pour certains. Et elle doit se démerder. Elle est toute petite, toute maigre. Elle doit se démerder avec des mecs qui font ça depuis des années. Et j'ai trouvé ça hyper fort. Franchement, je vous le conseille à toutes. C'est Catherine Poulain. Elle a reçu des prix littéraires. C'est très bien. Mon vrai kiff, mon vrai très gros kiff, c'est un énorme coup de cœur. Je vais parler de cinéma. C'est la première fois que je parle cinéma dans ce podcast.
On
a failli attendre.
Parce que j'estime que j'en parle tellement dans mon quotidien que c'est cool si je parle d'autre chose. Là, en l'occurrence, j'ai eu un coup de cœur, mais tellement grand que je ne pouvais pas passer à côté. Ça s'appelle How to Talk to Girls at Parties. Et c'est le nouveau film de John Cameron Mitchell, qui est le créateur de Short Bus, qui était déjà un film assez barré sur le club libertin et ses partouzes. Et c'était déjà passionnant. Et là, en fait, il a remis le couvert du truc complètement barjo avec How to Talk to Girls at Parties. C'est un film qui est porté par Elle Fanning, qui est juste incroyable dedans. Et je me disais que cette meuf, c'est ouf parce qu'elle a une filmographie impeccable. Il n'y a pas un putain de loupé. C'est la sœur de Dakota Fanning.
Elle a laissé sa sœur faire la carrière avec des hauts et des bas.
C'est
et
ça.
Elle a dit, je prends les hauts.
On rappellera que Dakota Fanning a joué dans Twilight. Okay. Voilà.
Et dans La Guerre des Mondes avec Tom Cruise.
Ouais.
Et donc, qui est sa sœur? Elle a joué dans quoi?
Elle Fanning, par exemple, elle a joué dans le dernier Nicolas Winding Refn, qui est The Neon Demon. Elle a une filmo un peu...
Aimes-tu les films d'auteur, Louise?
elle a une filmo un peu... Auteur,
elle
n'avait
pas répondu, Louise.
Mais
elle
non, mais
collait
parce
dans
que...
son micro.
Mais j'ai ri parce que j'ai vraiment zéro culture musicale.
Ciné.
Et du coup, à chaque fois que Kaline dit des noms d'acteurs, et ensuite elle me dit, mais tu sais, il a joué dans ça et dans ça, le film de machin.
Et
je suis
tu
là...
t'engouffres, tu t'enfonces dans un puits d'ignorance.
C'est comme toi quand tu me connais, quand tu me parles de musique, tu sais. Mais donc Elle Fanning, ouais, c'est une meuf qui doit avoir, je crois qu'elle a 20 ans. Elle est vraiment, elle est toute jeune et elle a déjà un milliard de films à son actif qui sont tous extrêmement qualitatifs. Et celui-là, vraiment, pour moi, avec The Neon Demon de Winding Refn, c'est celui qui a fait Drive, par exemple.
Ah, ça me parle.
Là, ce film est complètement dingue. Pour vous pitcher très rapidement l'histoire, ça parle de trois jeunes mecs complètement passionnés par la musique punk dans le Londres des années 70-80. Et en fait, un jour, ils font du vélo et tout, et ils tombent sur une baraque.
Comme des punks. comme Cédric dans son enfance.
Grave. Ou comme l'autre connasse qui monte sa montagne là dans ton jeu vidéo. Elle est pas à vélo.
C'est l'air, non, elle est pas avec le vélo.
C'est compliqué les montagnes à vélo, à part le Tour de France.
Ah, mais... mon père fait du vélo dans la montagne très souvent. Bref, du coup, ils font du vélo comme ça, ils font du vélo, et ils tombent sur une grosse baraque qu'ils pensent abandonner au départ, et en fait, t'as des lumières assez flashy qui sortent par les fenêtres. Ils sont intrigués, et ils se disent, bon, doit y avoir une teuf, on va y aller, on va peut-être pécho. Bref, ils arrivent devant cette porte, et on leur ouvre, et c'est une femme habillée avec une espèce de combinaison en latex orange qui leur ouvre, avec les seins hyper pointus et tout, et un chignon de l'enfer, et par une espèce de pirouette, ils arrivent à rentrer, à pénétrer dans cette soirée, et ils sont accueillis par plein de meufs qui sont en train de faire des espèces de danses contemporaines, toutes sont habillées, en fait t'as plusieurs groupes de meufs et de mecs, et ils sont habillés tous avec des couleurs complètement dingues, avec des trucs en latex ou en cuir, et ils font de la danse, et tu te dis mais qu'est-ce que c'est que ce truc, et en fait il finit par avoir un crush pour une meuf qui est donc Elle Fanning, et qui est un peu la rebelle du truc. Elle, ça l'a fait trop chier d'être avec ses blaireaux, tu vois, et du coup elle se barre de la soirée avec lui. Et elle lui apprend qu'en fait, elle est, elle fait partie d'une colonie extraterrestre et qu'ils sont venus sur Terre.
Le visage de Mimi.
C'est surpuissant.
Non, mais ça va trop vous plaire.
Plot twist.
Et en fait, donc, elle fait partie donc d'une colonie extraterrestre. Et ils sont là pour faire du tourisme, pour visiter le monde, voilà, super. Tout simplement.
Trop bien.
Et en fait, du coup, ils vont forcément s'amouracher. Et elle arrête pas de croire que le punk, c'est un endroit. Donc elle arrête pas de lui dire, bon, quand est-ce qu'on va au punk? Et c'est beaucoup trop bien. Et il y a des moments incroyables.
C'est trop génial.
Et donc, en fait, c'est cette rencontre entre deux cultures qui ont vraiment rien à voir et qui sont vraiment très peu capables de communiquer, tellement l'une est complètement barjo et l'autre semble barjo aux autres. Pour nous, c'est normal, vu que c'est des humains. Ils font tout comme nous. Et c'est complètement barré, c'est complètement psychédélique, ça part dans tous les sens finalement. Elle Fanning, elle va finir par monter sur scène avec Nicole Kidman, qui est une meuf hyper punk aussi, avec les cheveux coiffés n'importe comment, tout en noir et tout.
J'ai trop hâte de voir Nicole Kidman en punk.
Ah non, mais moi j'étais là, qu'est-ce que c'est que ce choix, Nicole Kidman en meuf punk, ça n'a pas de sens, elle est incroyable, et cette meuf ne vieillit pas, c'est quand même dingue. Et donc c'est leur histoire d'amour, et moi j'ai vécu ça aussi comme un espèce de pamphlet anti-tourisme merdique, c'est-à-dire de tourisme qui se... Enfin, ce que moi j'appelle tourisme merdique, c'est-à-dire tu vas dans un pays et tu te contentes de rester dans un hôtel à rien foutre avec les gens qui viennent du même endroit que toi. Et elle Fanning, du coup, elle arrive à sortir de ce truc-là et aller explorer le monde vraiment, et elle arrête pas de critiquer un peu les autres qui finalement sortent pas le nez de leur hôtel, entre guillemets. Et ça dit plein de choses sur l'héritage, sur l'amour, sur je sais pas, sur plein vraiment plein de sujets. Ça aborde tellement de thématiques que ce serait très compliqué de résumer en 3 minutes sans avoir préparé, mais vraiment c'est un coup de cœur énorme. Ça sort le 20 juin en France, et vraiment allez le voir, c'est barjo, c'est formidable, c'est coloré, c'est psyché et c'est philosophique à mort. Voilà.
Wow.
On adore.
On voit que c'est ton métier. C'est clair. Mimi, elle est solde, elle y va direct.
Ah oui, d'ailleurs,
t'as dit extraterrestre.
Dire. Oui, c'est ça, elle s'est arrêtée là.
Ah, moi, t'as dit punk, tu me l'avais vendu.
Non, mais attends, j'ai oublié de donner un argument primordial pour Mimi, c'est que ce film est tiré...
Thomas Hardy.
Non. Ce film est tiré d'un roman de Neil Gaiman, qui est à l'origine
on
série
Neil
American
Gaiman,
Gods.
Tout à fait. Très bon auteur.
Voilà. Donc, ça a fini de. Quand j'ai appris ça, ça a fini de me convaincre. Bon,
ça explique beaucoup de choses.
Ça explique beaucoup de choses sur la folie du produit entier. Ouais. Mais vraiment, c'est incroyable. Allez-y.
Ça a l'air trop bien. Ouais. Tu l'as très bien vendu. Bravo, Kalindi. J'ai très envie d'aller le voir. Mimi.
Oui.
Cédric.
Oh, ça a l'air trop naze.
Wesh,
Vraiment, ça a l'air ouf. Non, mais punk, mythes, extraterrestres, d'ailleurs, tombe amoureuse.
Ouais. Ah ouais, c'est fou.
Tous les arguments sont bons.
En punk, carrément.
Tous les arguments sont bons.
On voit.
On est prêt.
À toi, Cédric.
Est-ce que je peux faire un interlude avant Cédric?
Bien sûr.
Je tiens à m'excuser officiellement auprès de Fabrice Florent, car j'avais complètement oublié, mais je lui avais promis que mon gros kiff, ce serait Westworld. Pourquoi? Parce que Fabrice Florent est un fan invétéré de Laisse-moi kiffer. Et dans le fameux épisode inoubliable où je me suis barrée au milieu pour aller manger des ramen parce qu'on avait commencé trop tard par rapport à mon planning, j'avais dit, pour info, je vais pas m'éterniser, mais mon kiff, c'était Westworld parce que ça m'a re-hypé la saison 2 et tout. Et j'étais partie.
Et Fab a dit, enculé, tu peux pas faire ça parce que maintenant j'ai envie de savoir pourquoi t'es hypé par Westworld et ça fait genre 3 semaines ou même plus, ça fait un mois et demi et je le sais toujours pas et du coup vas-y dis-le et je fais ouais bah t'inquiète du coup cette semaine mon gros kiff c'est Westworld, évidemment je l'ai pas noté. Entre temps j'ai ressenti des choses pour des garçons, du coup j'ai fait la masculinité et je finirai c'est par Westworld, parler hein. de Westworld dans Laisse-moi kiffer, c'est une promesse solennelle que je fais à Fabrice Florent et à tous les auditeurs et toutes les auditrices.
On enchaîne,
hein. Wow. Allez c'est très quince.
Ouais, mon gros kiff, c'est de la bouffe aussi. Non, c'est pas de la bouffe, c'est une émission sur la bouffe. Tout commence.
Story time. Story time.
Non, tout commence, je pense, un jeudi matin, pendant que je suis donc dans la cour des bureaux de Mademoiselle avec Dorothée. Dorothée, donc notre
chef du pôle vidéo.
Chef du pôle vidéo, réalisatrice, monteuse et bien d'autres cordes à son arc.
Qu'on embrasse.
Et qu'on embrasse très fort et qu'on adore. On parlait donc de toutes les reportages et les saisons de trucs sur la bouffe, style Chef's Table et tout ça sur Netflix. Ouais. Et je lui disais, j'aime pas Chef's Table. Je trouve que c'est un peu chiant, la musique, il y a du Vivaldi partout. Le montage, il est un peu casse-couille.
C'est quoi Chef's Table? Ça raconte quoi?
C'est des séries d'émissions qui suivent à chaque fois un chef qui vient d'un peu partout dans le monde. T'as pas mal de Français. T'as pas mal de Français un peu aux États-Unis un peu là et puis t'as
est-ce qu'il y a des Bretons,
des chefs italiens, sans doute des demi-bretons.
Si vous êtes breton et chef, envoyez un mail à chef et breton.
La meilleure adresse mail, putain, j'ai envie que ce soit mon adresse mail. Kenavo at mademoiselle.
Très bon ça. Et donc du coup voilà, il y a ce truc là chef Stable, j'étais là bof 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 et elle me dit tu devrais regarder Ugly Delicious. Et donc, c'est ça mon gros kiff. Spoiler.
Oh,
c'est Ugly Delicious.
Je crois que je l'ai vu sur ma homepage.
Et Ugly
sur Netflix ?
Delicious, ouais. Sur Netflix. Donc, Ugly Delicious, c'est donc écrit, réalisé, produit par Dev Cheng et plusieurs de ses potes d'ailleurs qui sont critiques gastronomiques. Des gens qui ne vous diront rien, comme Dev Mian et tout ça, que je connais juste parce que j'ai regardé ça. Et donc, en fait, ce qui est intéressant dans ce truc-là, c'est que dans Ugly Delicious, il va prendre des sujets. À chaque fois, c'est une thématique. Genre, le premier épisode, c'est la pizza. Le deuxième, c'est les tacos. Le troisième, c'est la cuisine à la maison. Le quatrième, c'est genre le poulet frit.
Et film gastronomie.
Yes.
Hein.
Yes.
Déjà mon épisode voilà. préféré.
Et en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'il se dit, ok, donc j'ai ces thèmes-là qui sont un peu des thèmes universels. Tu commences par la pizza. Il y a 25 milliards de types de pizzas, les pizzas américaines, napolitaines. Et donc, du coup... Non, mais c'est vrai. Et tu peux faire des pizzas avec n'importe
c'est
quoi.
Vrai,
tu vois,
c'est vrai, on peut tout mettre sur une pizza.
Bah oui, tu peux mettre de
l'ananas. Sauf de l'ananas, j'allais dire.
Tu peux mettre de l'ananas et tu vas trouver des gens qui vont acheter ça par millions et lancer des débats. 20 à travers le monde sur peut-on mettre de l'ananas ou non.
Il a clos le potentiel débat qu'on aurait pu avoir sur la pizza.
Vraiment, il nous a coupé l'herbe sous le pied en mode c'est chiant.
J'en peux plus de ce truc. Bref. Et donc, en fait, cette histoire-là, en vrai, c'est que ce dont il a envie de discuter, Dev Cheng, à travers cette histoire de la pizza, c'est de l'authenticité. Qu'est-ce que c'est l'authenticité en cuisine? Est-ce que vraiment on va continuer de s'en battre les couilles que les pizzas, elles sont pas vraiment faites comme ça à Naples et tout ça? Est-ce que c'est vraiment important? Et en vrai, on fait ce qu'on veut avec sa pizza.
Mais oui. C'est vrai.
Et en fait, tu vois, il termine en disant « Moi, les meilleures pizzas que j'ai jamais mangées de ma vie, c'est à Tokyo. » Et il t'emmène chez un chef, donc Tokyoïte, parce que ça bouge pas mal, en fait, hein, dedans. T'as plein de méga critiques gastronomiques. T'as le chef du Noma, qui est le premier restaurant, le restaurant le plus étoilé, pas étoilé du monde, mais genre le meilleur restaurant du monde depuis 10 ans. T'as le mec qui est le boss de la pizza napolitaine, machin. Donc, tous ces gens sont interviewés. Chaque fois, ils disent « Moi, je crois à l'authenticité. » Après, bam, tu passes sur un gars qui dit « Moi, je crois que l'authenticité, c'est de la connerie. » Et donc, tout le montage est comme ça en fight. Et donc, ça termine à Tokyo avec un chef Tokyoïte qui fait une pizza à base mayonnaise avec du thon rouge cuit mais façon sushi avec que des ingrédients locaux. Parce que le mec, il dit « Franchement, moi, la mozzarella du Buffalo, le fait de la faire venir ici... En vrai, elle a 14 jours, elle n'a aucun intérêt. Tu vois donc, j'utilise pas ça. Et donc, son truc est trop, trop ouf. Genre, même dans la préparation et la finesse d'un truc comme ça chez les chefs japonais où ils cuisinent avec leurs longues baguettes et c'est trop beau et ça a l'air ultra maîtrisé. Et je trouve que c'est toujours des moments un peu touchants.
Et après, comme quoi, les gens qui racontent une histoire dans leur plat, ça te touche pas, mais...
Mais oui, mais voilà. Alors, mais c'est ça, le truc, c'est que, justement, je trouve que... Et c'est là où je voulais en venir. Ce truc de raconter une histoire à travers son plat, j'ai enfin compris ce que ça voulait dire dans Ugly Delicious.
D'accord.
Parce qu'en fait, il va voir les... Il est pas là, genre, allez, vas-y,
Raconte une histoire, sort tes tripes, tu vois, genre façon Philippe Etchebest, qu'on adore.
C'était une belle imitation.
C'était encore une bien belle imitation.
Tout, je vous déteste. mais tu vois, du coup, cette espèce de truc un peu bullshit. Et je pense que ça veut dire quelque chose dans la tête d'Etchebest quand il le fait, mais en vrai, à la télé, t'es là, genre.
Ouais.
Arrêtez de répéter ça, genre 25 fois par épisode, on s'en balèque.
D'accord, ouais.
Et donc là, bam, t'as un chef. Tu viens lui expliquer un truc, tu viens parler, vraiment, tu vois, c'est limite un peu philosophique, l'authenticité dans la bouffe, c'est un vrai sujet, et tu prends le, il prend voilà, le, donc la pizza comme véhicule pour discuter de ce truc-là. Mmh. Et en fait, l'épisode numéro 2 sur les tacos, qui est... Alors, mais c'est ouf, parce que moi, j'étais à genre, un épisode, genre 1h10 sur les tacos, ok, on va voir.
Dégueulasse, donc bon, oui.
Alors, non, moi, j'aime bien les tacos, parce que j'aime bien la bouffe mexicaine, parce que j'aime bien les piments, parce que j'aime bien tout ça. Et donc, en fait, il prend, pareil, le véhicule des tacos. Et en fait, grosso modo, de la faculté de la cuisine mexicaine à réussir à s'adapter à peu près tous les aliments. Et donc, il te parle aussi des tacos arabes, donc qui sont des tacos faits avec du pain libanais, parce que les immigrés là-bas commençaient à faire leur propre pain. Et qui sont des tacos faits avec donc du pain libanais, de la viande à gyros.
C'est un kebab.
Et bah, c'est un kebab, mais... Mais en mode tacos, avec des ingrédients de tacos,
des formats. Kebab à
non, mais tu vois, des formats tacos et machin. Okay. Et du coup, ce truc-là, au Mexique et dans le sud des US, Los Angeles, machin, est connu comme les tacos arabes. Et du coup, en fait, à travers ce putain de tacos,
la
il
fusion.
Va encore.
La bouffe fusion.
Ouais, alors ça parle beaucoup, beaucoup de fusion, effectivement. Ah oui. Et de mélange de culture et tout ça. Et vraiment de ce truc. Et Cheng, en fait, il y revient assez régulièrement, parce que c'est un chef coréen. Dont le père est, je crois que mon père est nord-coréen, qui a réussi à se barrer, je sais pas quand, et donc sa mère est, non, sa mère est coréenne. Bon bref, je sais plus, j'ai plus son arbre de famille en tête, mais en gros, tu vois, c'est lui-même un produit vraiment mixité américaine,
ouais.
un peu marrante quoi. Et en fait, ça le passionne ce truc de mélange de culture, de fusion, et il est persuadé qu'en fait la bouffe a un discours politique. Et ce truc-là sur les tacos, c'est ouf parce qu'en fait, genre, c'est limite une des charges anti-Trump les plus intéressantes et touchantes que j'ai jamais vues. Alors qu'en vrai, ça parle jamais de Trump. Ça parle de politique d'exclusion aux États-Unis, machin. Ça parle de mélanger les différentes cultures, les trucs. À la fin, ça donne quand même des machins de ouf. Et ça parle de politique et d'acceptation à travers la bouffe. Et c'est de ouf.
C'est trop bien.
À un moment, il descend à Mexico City chez un gars qui a une taqueria, une étoile. Donc, tu vois, une taqueria qui a une étoile Michelin, déjà, t'es là, genre, ok.
Ouais.
Et donc, le mec raconte son histoire. Il disait qu'il était donc aux États-Unis pendant. Il y a 20 ans. Il bossait avec un chef là-bas. Donc, il était, tu vois, un peu en cuisine gastro qui se la raconte et tout ça. Mais il kiffait bien. Il a amené comme ça son ambiance, ses racines mexicaines dedans. Il commence à avoir du succès, il se fait choper par l'immigration, bam, il se fait dégager des États-Unis. Il rentre au Mexique avec un ban de 5 ou 10 ans, t'as plus jamais le droit de venir pendant 5 ou 10 ans. Quelques années après, son père est malade, parce qu'en fait, son père et sa mère sont aux États-Unis, c'est le seul de sa famille qui n'est pas américain. Donc sa mère lui dit, faut vraiment que tu viennes, ton père il est malade, il va mourir, faut que tu traverses la frontière et que tu te pointes. Donc il se démerde, il passe la frontière illégalement, il passe aux États-Unis, il voit son père avant qu'il meure, il se fait pas gauler. Du coup, qu'est-ce qu'il fait? Il se remet à faire de la bouffe et à avoir suffisamment de clients. Et encore, il y a sa tronche qui apparaît dans les journaux parce que c'est un super chef. Bam, l'immigration lui retombe sur la gueule. Il se fait renvoyer au Mexique et là, il a un ban à vie. Donc le mec est au Mexique, sa famille, et donc là, on parle de ses enfants, sont aux États-Unis. Il n'a plus le droit d'aller les voir. C'est un chef, une étoile au Mexique qui fait de la bouffe de ouf.
C'est fou, hein.
C'est n'importe quoi.
Ouais, c'est fou.
Et en fait, voilà, à travers ce putain de thème des tacos, t'as
ouais,
tout
plein
ça.
De sujets qui sont abordés.
Et ce truc, et en plus, voilà, à travailler à travers le goût, machin, ouais. et toujours, il y va un peu sans concession, c'est assez marrant. Cheng, il y va, il pose les questions, ouais, voilà, tu vois, il met les pieds dans le plat et tout ça. L'épisode sur le home cooking, c'est un vrai truc autour des racines, de comment est-ce qu'on peut... faire évoluer un peu le home cooking, un peu des traditions autour de Thanksgiving, inviter les gens chez toi, qu'est-ce que ça veut dire? Quand t'es un chef, comment tu cuisines chez toi? Tu vois, il y a un truc de rapport à la bouffe comme ça.
Il y avait un truc où je crois que Gordon Ramsay cuisinait chez lui à un moment donné, il faisait un repas de Noël dans sa cuisine à lui, dans sa maison en Angleterre, mais je sais plus où. C'est cool, je trouve, les insights de...
Mais c'est marrant parce que moi, ma mère, elle est avec un mec qui est chef, pas du tout dans un restaurant et tout, il est chef dans une maison de retraite, tu vois, mais bon, il reste, il fait quand même à manger à des gens à longueur de temps. Et en fait, je les ai vus se fighter trop de fois autour de la bouffe parce qu'en fait, il veut apprendre à ma mère à faire à sa manière à lui.
Ah, oui.
Et je suis là, c'est un truc de ouf. Mais je pense que c'est un truc... Enfin, j'ai l'impression que c'est un truc très français. La bouffe et suivre la recette. Et en fait, avoir la recette de ta grand-mère et machin. Et en fait, si tu fais pas comme ça, ça va pas être aussi bon et ça va pas être la meilleure recette. Et t'es là, peut-être juste, on peut accepter le fait qu'il y ait plusieurs recettes et qu'il y a plusieurs trucs qui sont bons. Je ne sais pas.
Mais en fait, ouais, sur l'épisode Home Cooking, il parle un peu de ça. Comment t'améliores, comment tu fais le truc. Et comment t'as le droit, en fait, de déroger, de désobéir, en fait.
Ouais.
Tu vois,
ouais. De mettre de l'ananas sur ta pizza.
Et de mettre c'est de l'ananas sur ta pizza si vraiment
t'as envie. Rien à foutre
en fait,
de ce que
je suis
les
pas sûre que ce soit un truc vraiment très français parce que alors je vais prendre un truc qui est pas une preuve
alors, oui.
Mais en fait quand tu regardes des films américains ou des séries américaines en fait t'as toujours l'impression que le moment de Thanksgiving c'est le moment où il faut respecter la recette et qu'en fait tout le monde va piocher dans le tiroir à recettes de mémé pour faire la dinde parfaitement cuite et que si elle est pas assez juteuse tout le monde se casse tu vois et j'ai vraiment l'impression que c'est un truc qui est assez en fait le truc de la mama même. Je sais que quand j'allais au Brésil, je traînais dans une petite favela où en fait on était invités à manger chez les grands-mères de gens qui traînaient avec nous. Et pareil, c'était un truc, il faut respecter la recette. Et en fait, on la donne pas la recette. C'est un truc qui reste dans la famille.
Oui,
c'est un secret. Et j'ai l'impression que c'est un truc qu'on cultive quand même dans vachement de pays en fait. Donc je les connais pas tous. Ce serait difficile de. Mais ouais, je sais pas.
Après,
si c'est
t'as
un
des
truc,
ouais, t'as des endroits où ça bloque plus que. Bah, en fait, t'as un autre épisode sur les écrevisses à la Nouvelle-Orléans. Ou pareil, c'est en mode blocage. C'est la tradition, c'est ça. On les fait de telle façon. On vous dit pas comment c'est fait et ça se transmet, ouais, genre de façon générationnelle. Et personne veut bouger du truc.
C'est fou, hein.
Et du coup, Cheng il bouge à Houston, donc Texas, qui a priori est devenu une sorte de nouvelle capitale culinaire. Où les mecs, du coup, ils font de la bouffe viet cajun avec des écrevisses à la viette et tout ça, avec plein d'autres recettes. Donc c'est des trucs un peu traditionnels de la Nouvelle-Orléans twistés. Mm-hmm. Et où c'est de ouf et c'est en train de pulluler un peu comme les écrevisses dans les rivières à travers le monde. Et donc l'épisode sur le poulet frit que j'ai vu hier soir, évidemment en fait il va aussi retracer tous les stéréotypes culturels du poulet frit aux États-Unis qui sont la bouffe des Noirs, le côté esclave et la façon en fait dont cet élément de bouffe, le poulet frit genre à la pastèque, ça ramène tout le temps les Noirs et les chefs noirs à un passé, tu vois, un passé, un passif et une lourdeur. Et comment, en fait, la plupart des chefs, du coup, noirs, ils veulent pas cuisiner de poulet frit dans leur resto.
Ouais.
Alors qu'en fait, ils aiment ça et tout ça. Et ils disent, mais moi, tu me filmes, t'amènes une caméra, je mange pas de poulet frit en public, tu vois. Et donc, cette relation très, très politique à la bouffe. Et donc, ils terminent sur un truc, encore une fois au Japon, sur deux Noirs américains qui ont ouvert un resto de poulet frit au Japon, où donc ils sont là, ils font leurs recettes avec les épices et tout ça, et c'est assez mignon parce qu'ils disent, voilà, du coup, ici, il n'y a pas de stéréotype, en fait, on fait la bouffe qu'on veut, et en vrai, nous c'est, on a ces recettes-là qui viennent du Sud et tout ça.
Ça reste quand même une analyse...
Ici, on peut le servir sans...
Ça reste quand même une analyse culinaire de l'Amérique.
Mais ce qui est, en fait, il fait beaucoup, beaucoup le parallèle sur la plupart de ces trucs entre les États-Unis et l'Asie, parce que ses racines à lui. Il passe beaucoup par Copenhague parce qu'il voit beaucoup le mec du Noma. Donc voilà, le nord de l'Europe. Mais je pense qu'en fait, pour le coup, il y a effectivement une volonté de s'éloigner de la gastronomie traditionnelle qu'on va voir dans Chef's Table et tout ça.
Ouais.
Donc du coup, tous les chefs français et tout ça, en fait, tu les vois assez peu.
Ah, ils sont pas là pour râler.
Bah ouais, non, mais en fait, t'en as en
dire,
plus.
C'est pas comme ça qu'on fait.
T'en as quelques-uns qui sont dedans et qui viennent et qui interviennent et qui sont gentils comme tout, quoi. Mais je pense qu'il y a une vraie volonté là-dedans. En France, les chefs, ils font pas du ugly delicious.
Mm-hmm.
Et lui, c'est ça qui l'intéresse parce qu'en vrai, je pense qu'il a envie de parler des gens et tout ça à travers son
truc. Ça a l'air trop bien.
Ouais,
vraiment, mais sans déconner, c'est ouf de passionnant. Et Dev Cheng, il est fantastique. Et Dorothée. Merci beaucoup, Dorothée.
J'ai une question importante pour toi, Cédric.
Henry.
J'ai plus envie de la poser.
Je suis timide.
Non, vas-y,
à quel point ça fout la dalle ? Parce que souvent, les émissions de bouffe, en fait, je peux pas les regarder quand je
ça
veux.
Ça fout
parce
pas
que
mal la dalle, ouais.
Si j'ai genre des pâtes, à rien, je vais avoir le seum, quoi. Vraiment, genre, ça, physiquement, ça me met mal. Je suis deg.
Alors, en fait, ça fout pas mal la dalle, mais c'est plus facile de se procurer du poulet frit ou des tacos rapidement que un émincé de, aux 18 asperges.
Ou des putains de ballotines, sa mère.
Ah, ça, c'est clair. Des ballotines
c'est surcoté,
de.
Surcoté, les ballotines. On
des
en
ballotines
peut plus
de citron caviar. C'est quoi les autres
des
mots-clés
des
c'est clair.
Encore, c'était moins que les fucking ballotines. Là, dans Top Chef, c'était à toutes les émissions
ballotine.
Et à la finale, il y a eu quoi
ah. Alors une ballotine d'écrevisse.
Et j'étais là, je vais lui niquer sa race.
Ouais, je suis d'accord.
Très bien, donc commandons des pizzas, des bonnes pizzas.
Ouais,
et
c'est
regardons
ça, c'est
les Delicious sans ballotine.
C'est con parce que même l'épisode des pizzas, à un moment, il fait livrer du Domino's pizza à des mecs qui font des bonnes pizzas pour leur dire allez, sérieusement, goûtez un peu, tu vois. Et donc ils sont là, genre ah bah c'est pas très bon. Et lui fait ah, moi j'aime bien quand même. Donc tu vois, c'est vraiment, il y va un peu à la fight
ouais,
et tout. Quoi.
Moi je vous emmerde, voilà.
Il, sent, ouais, il est vraiment très marrant.
Alors j'ai hâte que Kalindi ait regardé Ugly Delicious et qu'elle envoie un message en disant est-ce que c'est normal que ça ait changé ma vie?
Comme pour Queer Eye.
Tous les trucs de Netflix, voilà.
Oui.
Non, d'ailleurs, est-ce qu'on a dit que Queer Eye avait une saison 2 et que c'était
oui.
le 15 juin
15 juin, saison 15 2, juin. Queer Eye.
C'est annoncé.
Préparez-vous, ça va être notre gros kiff à tous.
Oh, cette d'ailleurs,
là, ce sera un épisode spécial.
Ça va être chiant à faire que parler de ça.
Oui, et en plus, on dira des trucs qui sont pas du tout compréhensibles pour les gens qui n'ont pas vu. C'est tu sais, clair. Genre, t'as vu, il a mis du correcteur, c'était fou.
Jonathan, il a encore tourné sur lui-même. Oh.
Et je voudrais d'ailleurs faire mon auto-promo, car en ce moment, sur Twitter, j'ai commencé un thread. En fait, je sais plus, régulièrement, je vois passer sur Instagram des super photos de Anthony, Jonathan, Bobby et compagnie. Donc, le Fab Five de Queer Eye. Et en fait, ils sont toujours très beaux. Ils ont toujours des très belles photos et ils sont tout à fait fabuleux. Et je me suis dit, tiens, c'est ma dose de joie quotidienne. Pourquoi ne pas la partager? Donc, j'ai commencé un thread sur Twitter où je poste toutes les photos que je trouve cool des Fab Five de
Putain, il doit y en avoir un paquet.
Queer Eye.
Parce que moi, sur ma tête, à chaque fois, je suis là, je scroll et il y a que eux, tu vois, je suis là, wow, ok.
Et donc, voilà, j'en mets quelques fois.
Moi, tu sais, je les vois sur Instagram, après, je vais sur Twitter, je les vois, je suis quand même recontente.
Oui.
Double dose de contente.
Double dose, et on adore. Donc, voilà, n'hésitez pas, c'est @petrushka_, et je l'ai piné en haut de mon profil afin que tout le monde le voit.
Ton tweet épinglé.
Oui, car je l'aime.
T'es trop une fangirl, je t'aime trop.
Ah, ils sont si choux. Voilà, c'était tout pour moi. C'était ma parenthèse Queer Eye. On a fait le tour de cette émission, dis donc.
Mais j'ai l'impression
qu'elle
était très bien. Est-ce que ça se tenait pas un peu?
Si,
c'était pas mal. Hein
chers amis, ce podcast finit simplement. Hein, ça y est, c'est la fin.
C'est ce qui se passe. Hein.
Voilà.
Ouais. J'espère. Se passe à la fin.
À la fin des choses.
C'est la fin des choses.
C'est terminé.
J'espère que ça vous a plu, que vous avez appris des choses et que vous avez fait des en écoutant nos histoires. Car
surtout celle de Jade.
Surtout celle de
Jade. Elle était si mignonne. Ouais. C'est vraiment ma nouvelle personne préférée. N'hésitez pas à vous abonner au podcast de Mademoiselle car on aime beaucoup que vous nous écoutiez et quand vous vous abonnez, vous avez tous les podcasts de Laisse-moi kiffer et vous n'en loupez aucun, c'est formidable. Et envoyez-nous des messages, on adore recevoir vos messages.
Des messages d'amour.
Oui, d'Australie, voilà. D'Argentine, d'Islande et d'ailleurs.
Et d'amour.
Et de 50 ans en Yvelines et
de Saint-Naz.
Et de Saint-Naz. N'hésitez
surtout, n'écrivez pas si vous venez de Saint-Naz. Vous appelez toi.
Je compte sur vous dans 10 jours. Vous m'envoyez des tweets pour dire oublie pas que tu dois parler de Westworld. Comme ça, j'oublierai pas que je parle.
Ah oui, c'est bien. Bah, sinon, tu peux le noter dans ton agenda.
Sinon, non. Ça peut vraiment être un kiff. Si c'est vraiment un kiff, t'en parleras.
Oui, c'est oui, vrai. Non, mais là, voilà. Le truc aussi, je suis dans la merde. J'ai 3 épisodes, j'ai 2 épisodes de retard.
Ouais, moi aussi,
parce que mon mec n'est pas dispo pour les regarder
on
et que c'est la seule série qu'on regarde ensemble.
Tu peux le voir et faire semblant que tu les as pas vus pour les re-regarder avec lui.
J'aime pas mentir à mon mec.
Oh là là, c'est la base d'une relation.
Ça, ça fait à peine un an et demi qu'on est ensemble. On en reparle dans un an. Et du coup, j'ai promis, à cause de toi, Louise, que j'allais faire un récap rigolo du final de Westworld.
Oui.
Le lendemain de sa sortie. Donc, je ne peux pas être en retard.
Il faut tout rattraper.
Oui. Probablement que dimanche, en potentiel gueule de bois, je vais regarder.
Moi, je suis over à la bourre et j'avoue que cette année, ça mangeait vachement moins Westworld que quand c'est sorti. Mais
attends,
façon...
on en parlera dans Laisse-moi kiffer.
Ouais, d'accord.
Okay. Épisode prochain, peut-être.
C'est quoi
je
le prochain?
Je compte sur vous, envoyez-moi.
Et là, c'est le 6e épisode.
Et ouais,
ça commence à s'inscrire dans le temps, bravo à nous.
Ouais. Est-ce qu'on aura un flux pour Laisse-moi kiffer un jour?
Je sais pas, les gens demandaient
quand un flux bimestriel.
Tu peux t'abonner à juste Laisse-moi kiffer, avoir juste Laisse-moi kiffer et pas avoir tous les podcasts de Mad.
Okay.
En même
un
temps.
Flux RSS.
Écoutez,
oui,
c'est
oui,
une question,
ce mot, mais je sais pas.
Une question qu'on posera à Fabrice Florent car c'est lui qui a les sous.
Tout à fait.
Voilà.
Je lui promettrai que si on a un flux, je parlerai de Westworld.
Pas mal. Joli, Mimi.
Le chantage, voilà la bonne base d'une relation saine.
Et aller au cinéma le 20 juin.
Et le mensonge dans le couple.
Et oui, aller au cinéma le 20 juin pour voir cet excellent film pitché par Kalindi.
Qui s'appelle
How to Talk to Girls at Parties.
Et on vous fait des bisous. Et d'ici le prochain épisode, touchez-vous bien, kiki.
Touchez-vous
bien le kiki. Mmh.
Toujours pas Mimi.
Putain, mais Mimi, elle refuse, bordel.
J'étais pas à cette pause clope où vous avez tous décidé ça, ok. J'aurais mis un veto.
En vrai, moi, je voudrais dire touchez-vous bien le kiff, mais à chaque fois, ils hurlent dans leur micro pour dire kiki. Et du coup, maintenant, je les suis parce que je veux pas qu'ils hurlent, voilà.
Là, c'est la pression sociale, ça.
Oui. Ça n'a pas de sens.
Quel exemple tu es pour Jade?
Il faut mettre kiki si tu le touches. Sinon, ça n'a pas de sens.
Mais en fait, tu sais pas que tu peux parfois jouer avec les mots et les assembler, et du coup, c'est drôle.
Non, mais justement. Oui.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.